cette année, comme plusieurs d'entre vous l'avez peut-être réalisé ou vous en avez entendu parler, j'étais absente pendant 9 mois. J'ai fait 6 mois de formation à une école de théologie à l'extérieur de Paris, où j'ai pris 5 cours de théologie, donc des cours d'exégèse et aussi des cours thématiques sur la création, la loi, des choses comme ça. S'il y en a qui sont intéressés à faire ça, c'est un programme assez intéressant, c'était gratuit. Parce que j'ai travaillé à la fin. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez venir me parler par la suite. Et après mes 6 mois de formation, j'ai fait 2 stages avec un organisme qui s'appelle Arocha, qui veut dire la roche en portugais. C'est un organisme chrétien qui fait la protection de l'environnement et de la recherche en environnement. Donc, j'ai fait mon premier stage au Portugal pour 1 mois et puis un deuxième dans le sud de la France. Le centre au Portugal, c'est le centre pionnier de l'organisme. C'est là que ça a commencé. Donc, si les photos apparaissent, il y a une photo de... C'est un centre qui a un focus sur les oiseaux. Donc, j'ai beaucoup appris sur les oiseaux que je ne connaissais pas beaucoup avant. Et le deuxième stage, dans le sud de la France, ils ont une vision plutôt hospitalière. Donc, j'ai beaucoup travaillé le côté hospitalier. Ils ont un café pour les randonneurs. C'est dans les Préalpes d'Azur. Donc, j'ai travaillé dans un café où j'ai pu partager la vision de l'organisme et la responsabilité des chrétiens pour l'environnement. Et en septembre, j'ai continué mes études en environnement à McGill, en sciences de l'environnement, que j'ai déjà commencé au cégep. J'ai étudié en environnement aussi. Où, en fait, c'est là que j'ai commencé mon sermon, c'est avec une histoire qui s'est passée. Un de mes cours de philosophie au cégep, j'ai décidé de le prendre sur la pensée verte. Et pendant ce cours-là, mon prof a commencé le cours en disant que la dégradation de l'environnement était la faute des chrétiens. C'était les chrétiens la cause originelle de la dégradation de l'environnement. Et donc, moi, j'ai essayé de lever la main, défendre ma foi et dire « Mais non, c'est pas vrai! » Mais j'avais pas vraiment les fondements pour défendre ça. Et le prof expliquait que les chrétiens utilisent le verset Genèse 1:28 qui dit « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et donc, ces deux verbes, dominer et soumettre, sont des verbes qu'on pourrait voir comme des verbes qui nous donnent le droit de faire ce qu'on veut de l'environnement, de l'exploiter pour s'enrichir. Et il y a aussi une corrélation entre les pays qui causent le plus de dégradation, donc les pays occidentaux, les pays riches, et les pays où le christianisme a une importance plutôt avant, avec la révolution industrielle, mais il y a quand même une corrélation entre les pays riches et la dégradation de l'environnement et le christianisme. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'en fait, ça ne devrait pas être la faute des chrétiens, on ne devrait pas être en arrière de ça. Et qu'en fait, ça enlève beaucoup de notre crédibilité. Un pasteur aux États-Unis a dit, Tony Campolo, dit que le monde commencera à prendre l'Évangile au sérieux quand les chrétiens prendront l'environnement au sérieux. C'est la même chose pour plusieurs autres causes. La justice sociale, prendre soin des veuves, des orphelins et tout, ça enlève notre crédibilité quand l'Église ne fait pas ça et quand on parle seulement d'un futur, quand plusieurs souffrent en ce moment et on ne prend pas soin d'eux. Et donc, je vais vous partager ma recherche. J'ai regardé à travers la Bible pour voir qu'en fait, en tant que chrétien, on a un appel, on a Dieu nous commande de prendre soin de l'environnement. Donc, on va commencer cette analyse à travers la Bible au tout début de la Bible, au commencement, à la création du monde. On voit que dans les premiers jours, mais la première période avant la chute, l'humanité et toute la création vivaient dans le shalom. Le shalom est souvent traduit par paix, c'est un mot qu'on associe en général par paix, mais qui a plusieurs autres aspects au terme hébreu, je crois, oui, hébreu, dont l'harmonie. Donc, il y avait une harmonie entre l'homme et Dieu et la création. On vivait ensemble et sans séparation. L'homme vivait avec la nature, dans la nature et vivait de la nature. L'homme vivait mais on prenait soin et la nature lui donnait ce qu'il avait besoin pour survivre, donc nourriture, eau, etc. On va voir aussi, mais je vais en parler un peu plus tard, mais la création comme un tout était bonne et l'homme savait ça et il vivait avec cette pensée-là. Donc là, j'ai un passage que Jess va lire en fait pour moi, qui va apparaître. Donc c'est le passage qui parle de la chute qu'on retrouve dans Genèse 3, 14 à 24. Mais j'ai coupé des parties, sinon c'est assez long. Donc en fait, c'est 17 à 24, j'ai oublié de changer, désolé. Oui, donc on voit dans ce passage plusieurs choses. Et les trois choses clés que j'aimerais, sur lesquelles j'aimerais mettre l'emphase, c'est que avec la chute, l'homme a été séparé de Dieu, l'homme a été séparé de l'homme et l'homme a été séparé de la création. Et donc, on voit ça aussi simplement avec le départ du jardin d'Éden, le jardin d'Éden où il y avait une harmonie, mais en partant de ça, il y a une séparation, il y a un chasme qui se crée entre chacune de ces choses. Donc, pour démontrer mon point qu'on a une responsabilité, je vais en parler par cinq points. Premièrement, notre responsabilité envers l'humanité, notre responsabilité envers l'environnement, la restauration que Jésus est venu amener et la restauration que Jésus va venir amener avec son retour et finalement, quelques points pratiques ou des actions pratiques qu'on pourrait adopter. Donc premièrement, on a une responsabilité envers l'humanité. Donc il y a plusieurs passages qu'on retrouve dans la Bible qui nous démontrent ceci. Je vais vous en lire quelques-unes parmi tant d'autres. Donc premièrement, Jean 15, 17 qui dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Proverbe 22, 22 à 23 dit « Ne dépouille pas le faible parce qu'il est faible et n'écrase pas le malheureux à la porte de ta ville. » car l'Éternel défendra leur cause et dépouillera de leur vie ceux qui les auront dépouillés. Et finalement, Matthieu 25, 40 qui dit, « Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Donc, une chose que je crois qu'on ne réalise pas toujours, c'est que la dégradation de l'environnement est en fait une cause humaine. C'est principalement les plus vulnérables qui en souffrent. Donc, dans nos pays occidentaux, on pourrait dire comme au Canada, au Québec, on ne voit pas cette dégradation et on ne la ressent pas directement. Mais en fait, elle affecte plusieurs personnes à chaque année. J'ai des statistiques que j'ai trouvées sur une banque de statistiques. J'ai oublié de prendre la source. Ce n'est pas très scientifique de ma part, mais bon. Donc, 18,9 millions de personnes sont déplacées sous le coup de phénomènes climatiques extrêmes. Donc, l'extrémité de ces phénomènes sont en fait accentuées par le changement climatique et tout. Donc, on parle ici de désertification et sécheresse dont on parle dans le prochain point. Les inondations, les tsunamis, mais les inondations sont encore plus grandes avec la dégradation de l'environnement qui augmente de plus en plus. Et l'exploitation de l'environnement est souvent associée à l'exploitation des humains. Les grandes compagnies qui exploitent l'environnement pour en profiter ont besoin d'une main-d'œuvre. Et c'est dans les pays où les gens sont vulnérables, sont marginalisés, qu'ils vont trouver cette main-d'œuvre. Donc, c'est eux qui souffrent les conséquences de cette exploitation. C'est ça. Donc, ça va avec les populations marginalisées. Et nous, en tant qu'hommes et femmes, dans des pays riches, on ne ressent pas les conséquences, mais on en profite. Donc, c'est nous qui avons les conforts, les produits pas chers et une surconsommation qui nous est facile, alors que c'est d'autres qui en souffrent les conséquences. Un exemple qui est assez facile et qui nous touche tous, j'imagine, c'est la surconsommation de vêtements. Si on regarde, j'ai mis une petite chaîne d'événements, mais je pense qu'on a tendance, au moins dans ma génération, mes amis et moi, il y a la nouvelle mode, le fast fashion, donc c'est la mode rapide, où les vêtements changent. À tous les trois mois, il y a une nouvelle mode qui sort et tu sens que tu as le besoin de t'acheter des nouveaux vêtements tout le temps. Et donc, tu consommes sans arrêt. Mais ces vêtements-là, ils sont pas chers parce qu'on consomme tellement. Donc, ils sont produits de manière vraiment rapide et pas de bonne qualité dans des compagnies où les gens travaillent à la chaîne et ils sont payés des miettes pour leur travail. Et en fait, la production, étant donné qu'elle n'est pas faite de bonne qualité, des toxines sont mises dans l'eau, il y a une pollution dans l'air que nous, on n'a pas parce qu'on n'est pas dans les pays où ça se produit. Et donc, eux, ils supportent les conséquences et c'est nous qui en profitons. Donc, ça, c'est mon premier point de notre responsabilité envers l'humanité, c'est que nos actions qui contribuent au changement climatique ne nous affectent pas, mais affectent nos frères et sœurs. Nous avons donc un appel à en prendre soin et donc de ne pas contribuer à ça. Mon deuxième point, la séparation entre l'homme et la nature. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait lire mes deux passages, sinon je peux les lire, mais... Donc, le premier passage qu'on retrouve dans Osée, moi, je le vois un peu comme une prophétie de la perte de biodiversité qu'on perd en ce moment, qui a un taux plus rapide qu'il n'a jamais été vu auparavant. Et le deuxième passage, dans Romains, la corruption dont on parle à la fin, il y a débat par rapport à... il y a différentes manières de voir de quoi on parle. Mais de nos jours, moi, je trouve que c'est... Moi, je le vois assez clairement comme la corruption auquel l'homme soumet la création en l'exploitant pour en profiter lui-même. Donc, une chose que j'entends souvent, qui m'a été dit par des amis, de la famille, des choses comme ça, c'est « Ah, Lauriane, c'est super bon que pour toi, l'environnement, c'est la cause qui tient à cœur, mais moi, c'est les humains. Moi, je prends soin des humains, puis c'est ça qui est important pour moi. » Donc, moi, ça, j'ai un... ma réaction à ça, c'est, moi, premièrement, les humains aussi, ça me tient à cœur. Je ne suis pas égoïste, puis je pense seulement aux éléphants. Là. Je pense qu'il faut prendre soin des humains aussi, mais aussi qu'en tant que chrétien, on doit prendre soin de l'environnement. C'est sûr que c'est pas au même niveau, mais il y a quand même un appel à ça. Donc, pour démontrer ceci, je vais le faire sous 5 points et ma suite après. Voici les points, mais je vais en parler un peu plus maintenant. Donc, premièrement, on a une responsabilité envers la création parce qu'on aime le Créateur. John Stott, qui est un pasteur et un théologien, qui est décédé, des années 1900, a dit « Dieu a voulu que nos soins de la création reflètent notre amour pour le Créateur. » Et c'est vrai que on peut assez facilement concrétiser cette citation, dans le fait que si j'aime ma sœur, par exemple, je vais aimer qu'est-ce qu'elle fait, ça va être important pour moi qu'est-ce qu'elle fait, et si elle travaille pour quelque chose, je vais aimer qu'est-ce qu'elle fait et je vais vouloir l'aider dans ça. Et donc, si on aime le Créateur, on doit aimer sa création. On doit aimer aussi ce que Dieu aime, donc ça va un peu, c'est une suite du point précédent, mais que... Dieu a créé le monde comme un tout, et on va dans Genèse 1:31. Je vais lire comme ça, puis je vais dans le métro. Dieu regarda tout ce qu'il avait fait, et il constata que c'était très bon. Il y a un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour. Je crois que c'est un peu, pas une tendance, mais on croit souvent que ce passage, quand il dit que c'était très bon, c'est en parlant de l'humain. Mais en relisant le passage au complet de la création, on voit en fait que c'est la création comme un tout qui est très bonne. Et si on voit que Dieu aime la création comme un tout, nous aussi, on doit l'aimer comme un tout. On est les représentants de Dieu sur terre, et donc on doit aimer ce qu'il aime. On prend soin de la création aussi parce que Dieu en prend soin. Donc, encore dans le point qu'on est des représentants de Dieu, si lui, il en prend soin, nous aussi, on ne doit pas seulement l'aimer, mais en prendre soin de nous-mêmes. Donc, j'ai deux passages pour ceci. Donc, Job 38, 27 à 27, 28 à, 26 à 27, pardon. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aimerait lire. Donc, on va dans ces deux passages. Merci, Chantal. Le fait que Dieu prend soin de la création, ce n'est pas seulement parce que... pour que nous, on en profite. Donc, le passage dans Job, en fait, Dieu est en train de dire, il n'y a pas d'humain dans le désert, il n'y a personne qui est là, mais je nourris quand même les arbres, je veux quand même qu'ils poussent. Et donc, ils ne sont pas là seulement pour nous, mais ils sont là parce que Dieu veut qu'ils soient là. Et donc, ça montre un peu qu'en tant qu'humain, on ne doit pas seulement prendre soin de l'environnement pour en profiter nous-mêmes, mais parce que Dieu a créé l'environnement pour qu'elle soit là et pour qu'elle s'épanouisse. Le prochain point... Donc, dans le psaume 24:1, dit « C'est à l'Éternel qu'appartient la terre avec tout ce qu'elle contient ». Donc ça, c'est aussi un rappel que Dieu nous a confié la terre, mais il ne l'a pas donnée comme maître. C'est Dieu le maître, c'est Dieu le maître de la maison. Nous, on n'est que les intendants, comme j'ai dit tout à l'heure, on est des jardiniers. Si quelqu'un me confiait sa maison pendant 3 semaines, je ne peux pas juste prendre toutes les fleurs et prendre toute la nourriture et partir et leur laisser rien. Je dois en prendre soin et m'assurer que tout va aussi bien au début qu'à la fin, qui n'est pas quelque chose qu'on est en train de faire en ce moment-là en tant qu'humain. Donc, ouais, il faut se rappeler que c'est à la base, c'est à Dieu, la terre. Et donc, on doit en prendre soin avec cette mentalité-là. Et finalement, en repassant au verbe dont j'ai parlé tout à l'heure, de dominer et soumettre, donc on lit dans Genèse 1, 28, « Reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se déplace sur la terre. » Et Genèse 2, 15, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Donc, j'ai mis en gras les 4 verbes. On ne voit pas super bien, mais j'ai mis en gras les 4 verbes. Donc, le verbe « soumettre » en hébreu, c'est « kabash », qui peut être traduit par « soumettre »,« être maître de » et « assujettir ». Et le verbe « dominer », qui est en hébreu « rada », peut être traduit par « dominer »,« surveiller », »,« régner ». Donc, ces 2 verbes sont des verbes assez forts. Ils donnent un peu une pensée d'autorité que l'homme a sur la création, qui est vrai. On a une autorité. Dieu nous donne cette autorité, cette responsabilité. Mais en voyant le prochain verset que j'ai mis, le verbe cultiver, qui est en hébreu abad, qui peut être traduit par cultiver, travailler, servir, et le verbe garder, qui est samar en hébreu, qui peut être traduit par garder, veiller sur et protéger. On voit en fait un tout. Donc, on ne peut pas regarder un des verbes et dire, ah, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut regarder tous ces verbes et voir, ah, mais en fait, c'est une description, un ensemble de ce qu'on doit faire envers la création. Donc, c'est un peu, ça rappelle un peu le rôle du mari envers sa femme, qui est, il est en autorité sur sa femme, mais ce n'est pas une autorité d'agression ou une autorité où l'homme a tout le pouvoir sur sa femme, mais une autorité où l'homme prend soin de sa femme. Donc, similairement, l'homme, l'humanité, on a une autorité sur l'environnement où on en prend soin, on la surveille et on la cultive. Donc, aussi, il faut aussi se donner un peu d'espoir. C'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, il nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a réconciliés avec l'homme, avec d'autres, nos frères et sœurs, chrétiens ou non chrétiens, et il nous a aussi réconciliés avec la création. Donc, le premier paragraphe de ce passage est en fait un hymne qu'on ne pense pas que Paul aurait écrit, mais qui aurait été connu par les chrétiens de cette époque. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait me le lire. Donc, il y a plusieurs choses intéressantes dans ce passage. J'aurais pu faire une exégèse complète sur ça, mais j'ai décidé de faire plus thématique. Mais les points que j'en ressors, qui sont vraiment, qui sont super importants, sont que, j'ai retourné, pardon. Premièrement, que tout a écrit par lui et pour lui. Je vais passer au prochain, en fait. Mais je vais en parler. L'environnement, en fait, fait partie du ministère de Jésus. On le voit de plusieurs façons différentes. Premièrement, les paraboles de Jésus sont souvent basées sur l'environnement. Par exemple, le passage dont on a parlé tout à l'heure dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu 6, où Dieu parle de la faune et la flore, donc Dieu prend soin. Et aussi, différentes paraboles, dont celui de la graine de moutarde ou l'agriculteur avec ses semences. Jésus se rend dans la nature pour être connecté avec l'Éternel, pour retrouver le Seigneur, qui est aussi, je pense, un appel à nous tous de se retrouver avec Dieu dans la nature. Je pense que le J2, on essaye de faire ça le plus possible en allant au chalet des Tracis. On se retrouve dans la forêt pour retrouver le Seigneur. Pas retrouver, mais pour rencontrer le Seigneur. Et finalement, un point que moi, je trouve assez encourageant ou qui démontre ceci aussi, c'est que Jésus est venu dans un monde physique, dans un corps physique. Si le monde physique n'était pas important pour Jésus, pour Dieu, il serait venu spirituellement comme esprit pour nous rencontrer spirituellement seulement, mais il est venu nous rencontrer physiquement aussi pour nous rappeler que le monde physique est en fait super important pour lui. Et On voit aussi dans le passage que ça a été créé par lui et pour lui. Donc, la nature, elle n'est pas là seulement pour les humains, mais pour Dieu aussi. C'est son amour qui a débordé en créant la création. Et donc, elle est là pour lui aussi. Et aussi, un autre point intéressant, je pars un peu, mais Jean 3,16, dans le grec, le mot « monde », qui est une traduction du mot « cosmos », « cosmos » ne parle pas seulement de l'humanité, mais de toute la création. Donc, on voit ça dans le passage précédent aussi, qui parle de toute créature. Dieu n'est pas venu seulement pour nous sauver, mais pour sauver toute la création. Et finalement, mais pas finalement, mon avant-dernier point, mais mon dernier point biblique, c'est la restauration qui aura lieu au retour de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait lire mon dernier passage?
L'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Romains 8, 21 à 24.
J'aimerais dire en tant que chrétien, on est chanceux. Dans tout ce qui est protection de l'environnement. Moi, j'étudie généralement ce thème dans un cadre non chrétien. Et il y a premièrement une difficulté à voir un but dans ce qu'on fait. On protège l'environnement parce qu'on trouve ça beau ou on pense qu'on devrait le faire, mais dans le fond, il n'y a pas vraiment un fondement. En tant que chrétien, on a un fondement, c'est que Dieu nous a donné la terre pour qu'on en prenne soin et parce que c'est sa création. Et aussi, la protection de l'environnement de nos jours, c'est un travail assez désespérant. Il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce qu'on fait parce qu'on voit que les taux de dégradation sont plus rapides que jamais et qu'en tant qu'humain, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais en tant que chrétien, on a l'espoir que Jésus va revenir pour restaurer la terre. Pas pour nous donner une excuse pour rien faire, mais pour nous donner une raison d'être et un encouragement. Le fondateur de Arusha, Peter Harris, que j'ai rencontré au Portugal, a fait une belle analogie qui représente bien notre rôle en tant que chrétien dans ce travail de protection. C'est qu'on est un peu comme un pasteur au lit de mort d'un de nos paroissiens. On ne peut pas sauver notre paroissien, on est qu'humain, mais on est là pour lui donner l'espoir à lui et à sa famille que quelque chose de mieux s'en vient. Et c'est la même chose pour la terre. Je pense qu'on... On voit que les choses ne vont pas bien. Mais pour moi, je ne peux rien faire pour sauver la Terre. Je peux faire des petites actions qui vont avoir un mini impact. Mais dans le fond, mon but, c'est de donner espoir à la Terre qu'il y a une restauration qui s'en vient et aussi à mes frères et sœurs non chrétiens pour les tourner vers Jésus dans ce monde désespérant. C'est un peu triste comme fin, mais on a espoir en tant que chrétien. Et donc, pour finir, j'ai quelques actions pratiques qu'on peut, juste pour nous encourager, puis commencer la semaine d'un bon pied. Donc, il y a les trois R dont on parle souvent, mais il y a un début et une fin qu'on peut rajouter. Donc, en anglais, c'est les cinq R. En français, c'est les trois R et un C. Donc, de refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter, en anglais, rot. Mais bon, en français, ça fonctionne moins bien. Mais quand même. Donc, juste donner quelques... Je ne vais pas trop en parler parce qu'on les connaît assez bien, mais juste se rappeler qu'il ne faut pas juste recycler. Je pense que c'est facile d'être comme « Ah, mais je ne vais pas réduire ou réutiliser, mais je vais tout recycler. » Mais dans le fond, recycler, c'est vraiment si je ne peux rien faire d'autre, je vais recycler. Donc, il faut essayer de refuser le plus possible. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé à refuser les pailles en plastique au resto. Je n'en ai pas besoin. Je suis capable de monter le verre jusqu'à ma bouche et boire. Donc, on n'a pas besoin de ces pailles-là. Ça va juste dans les dépotoirs. On n'en a pas besoin. Et aussi de réutiliser. Donc, je vais dans les écoles et tout, les bouteilles en plastique. Moi, j'ai une bouteille en métal que j'amène partout avec moi. Et aussi, c'est souvent une question de qualité d'eau, mais l'eau dans les bouteilles en plastique qu'on achète, c'est souvent de l'eau d'un robinet. Donc, c'est la même qualité d'eau que chez nous. Donc, juste un encouragement d'amener des bouteilles, des petites actions qui ont quand même un impact à la longue. une autre chose qui est super importante, c'est de s'informer. Donc, de voir nos actions, c'est quoi leur impact environnemental. J'ai fait, vendredi soir, j'ai fait le test pour la famille de Vanille de notre empreinte environnementale. Donc, si tout le monde habitait comme nous, il nous faudrait 6,3 planètes. Donc, c'est vraiment, vraiment moche. On est nuls. Mais... mais ça, avec ce site-là, donc j'ai mis les liens que j'ai aussi demandé à Marc de mettre dans le courriel de la semaine prochaine pour que vous fassiez le test vous-même pour votre famille, mais il donne des trucs pour vous améliorer. Donc, nous, on va dire que c'est souvent la voiture qui est notre point négatif, qui augmente notre empreinte, mais d'essayer d'utiliser le plus possible le covoiturage, le vélo et des choses comme ça. Donc, s'informer sans rien faire, ça ne sert à rien, mais s'informer pour trouver des alternatives, c'est super important. Le minimalisme, qui est de plus en plus populaire à la mode, mais qui est aussi une manière de... qui est aussi un appel en tant que chrétien. On n'est pas appelé à avoir beaucoup de choses, à vouloir accumuler des choses, mais plutôt d'être minimaliste puis d'apprécier ce qu'on a. Et le moins qu'on a, le plus qu'on l'apprécie et le moins qu'on veut. Manger écologiquement, je sais que c'est un point faible pour plusieurs d'entre nous. C'est difficile parce qu'on aime on aime ce qu'on mange. Mais souvent, ce qu'on mange, ça a un impact immense sur l'environnement. Par exemple, la viande rouge, que je sais que plusieurs aiment, mais c'est une des causes principales du réchauffement climatique. Donc, il y a manière de trouver, okay, est-ce que dans notre demeure, est-ce qu'on peut diminuer notre consommation ou l'arrêter entièrement? Et si ce n'est pas possible, la viande rouge, c'est trop important pour vous, mais il y a aussi des manières de manger localement, de manger des fruits et légumes en saison plutôt que des fruits et des légumes qui sont importés et qui produisent avec le transport. Et finalement, c'est d'aller dans la nature. C'est difficile d'avoir un cœur ouvert à protéger l'environnement quand on ne connaît pas l'environnement. Donc, je vous encourage à aller en randonnée, de côtoyer la nature pour vous donner un amour pour celle-ci, une compassion pour vouloir la protéger. C'est difficile d'aimer ce qu'on ne connaît pas. Et en tant qu'église, c'est quoi qu'on peut faire? Donc, premièrement, j'aimerais commencer par un petit shout-out à toutes les personnes dans l'église qui font des bonnes actions. Premièrement, il y a Lise et Suzanne. Les deux sont pas ici. Lise Hull et Suzanne Bisson, qui, je m'appelle les potlucks depuis que je suis toute petite, ils passaient avec un panier, ils ramassaient toutes les cuillères et les fourchettes en plastique pour les laver. Donc, c'est super. C'est des cuillères et plastiques qu'on jetterait normalement, mais qu'on peut réutiliser. Ça, c'est économique et écologique. Il y a aussi Sala en arrière qui lave toutes les tasses à la fin de l'heure du café qu'on réutilise à chaque semaine. Plutôt qu'utiliser ça en styromousse, c'est super. Et aussi Valentine qui ramène les pains de première moisson pour qu'on puisse les manger. C'est des pains qui seraient jetés sinon, mais nous, on les mange, donc c'est super. D'autres initiatives qu'on pourrait prendre, donc le covoiturage qu'on a déjà commencé, mais juste de développer ça de plus en plus, c'est... Encore, c'est plus économique et plus écologique. Et aussi, quelque chose dont je n'ai pas parlé encore aux anciens, mais qui pourrait être intéressant, c'est un organisme, une compagnie qui s'appelle Second Life et qui crée des boîtes de fruits et légumes qui ont été refusés aux épiceries, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ont une poque en trop, donc elles ne sont pas belles, ou qui sont en trop grande quantité, donc ils ne vont pas être vendus. Donc, en achetant une boîte hebdomadaire, tu économises de l'argent et tu contribues à c'est un petit pas vers être plus écologique. Et donc, s'il y a assez de familles dans l'église qui seraient intéressées, ça serait intéressant pour l'Oasis, pour que le centre de la Corde soit un centre de dépôt de ces boîtes-là. Donc, ça aussi, je demanderai à mon père de mettre le lien dans le courriel de cette semaine, puis regarder en tant que famille. C'est souvent moins cher. Ils ont différentes grandeurs de boîtes. Ils ont aussi une boîte bio, si ça vous intéresse. Donc, ça pourrait être une autre option. Et il y a aussi le réseau d'églises vertes qui est de plus en plus important au Québec, mais on pourrait regarder en tant qu'église si c'est quelque chose qu'on veut joindre. Ils donnent du matériel pour en parler davantage et des différents trucs à adopter en tant qu'église. Et finalement, de prier et de parler de ça en tant qu'église, c'est à un certain point, c'est le plus facile, mais c'est ce qui aurait le plus grand impact, c'est qu'on en parle en tant qu'église. Et donc, juste de nous encourager à ne pas oublier l'environnement et de se rappeler que nos frères et sœurs aussi, chrétiens ou non, ils en souffrent. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'Église pour les aider là-dedans? Donc, c'est avec ça que je vais finir, mais j'ai quelques réussites. J'ai amené des livres avec moi. S'il y en a qui aimeraient en emprunter, j'en ai en anglais et en français. S'il y en a qui veulent en emprunter, vous pouvez venir me voir ou si vous avez des questions. Et juste pour un mot pour la fin... Un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Wendell Berry, c'est un chrestien environnementaliste, qui, je l'ai traduit moi-même de l'anglais, donc c'est un peu, c'est pas super fluide, mais l'idée est là quand même. Donc c'est avec ça que je vais finir. Les enseignements écologiques de la Bible sont simplement inévitables. Dieu a créé le monde parce qu'il a voulu qu'il soit créé. Il croit que le monde est bon et il l'aime. C'est son monde. Il n'a jamais renoncé à son droit de propriétaire. Il n'a jamais abrogé les conditions qui encadrent le privilège qu'il nous donne d'utiliser ce monde. Ceci nous oblige à nous en occuper avec le plus grand soin. Donc, voilà mon message sur l'environnement. Le groupe de louanges peut remonter, je ne sais pas si on fait de la louange, et on peut commencer ce temps de louange en glorifiant Dieu pour sa création qu'il nous a donnée.